chaque matin et chaque soir, après Zazen, nous chantons la Nyashingyo. La Nyashingyo exprime l'essence de l'expérience de Zazen. Il essaye de mettre en mots ce qui se vit dans la pratique de Zazen. Ce que l'on peut expérimenter et confirmer par soi-même. À condition, bien sûr, d'être suffisamment concentré dans la posture du corps et la respiration. Pour permettre à l'esprit de se clarifier et de voir les phénomènes qui se manifestent dans leur véritable nature, et non pas à travers notre karma, notre vision conditionnée par notre ego. C'est tout l'enjeu de la pratique de Zazen. De percevoir la réalité au-delà des apparences. Aussi, Kanjisa, il dit à Sariputra, Charishi, toutes les existences ont l'aspect de coup. Elles sont sans naissance ni extinction, ni pures ni souillées. Elles n'augmentent ni ne diminuent. Toutes les existences ont l'aspect de coup, de la vacuité, ne signifie pas qu'elles n'existent pas, mais seulement qu'elles sont en réalité insaisissables, sans substance propre. Elles sont sans naissance ni extinction, car la naissance est juste un phénomène conditionné, une étape dans l'enchaînement des causes, des conditions et des effets. À un moment donné, un certain nombre de causes et de conditions font apparaître un être. Mais qu'était-il avant sa naissance ? À un moment donné, les causes et les conditions font que un être disparaît. Mais ces apparitions, ces disparitions, ces naissances et des morts ne sont que le jeu de la transformation des phénomènes. En réalité, rien ne naît ni ne meurt, mais tout se transforme sans cesse. Elles ne sont ni pures ni souillées. Pures et souillées sont des qualificatifs que nous accolons à la perception que nous avons des phénomènes, tels que bons, mauvais, utiles, nuisibles, agréables, désagréables, purs, impurs. Mais en eux-mêmes, les phénomènes ne sont pas purs ou impurs. C'est notre mental dualiste qui discrimine en fonction de nos désirs et de nos aversions et qui qualifie les phénomènes de cette manière. Comme je l'ai dit hier, même la beauté. Par exemple, une fleur est belle, une montagne est belle. C'est encore un qualificatif qui provient de nos préférences, de nos conditionnements. Et la fleur en elle-même, la montagne en elle-même, est au-delà de tout qualificatif. Ensuite, Sariputra continue en disant « Donc ». Dans coup, la vacuité, Il n'y a ni forme, ni sensation, ni perception, ni formation mentale, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni conscience. Il n'y a ni couleur, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher, ni pensée. Donc d'un coup, n'existe pas tous ces domaines des sens. Cette affirmation, assez brutale, peut choquer le bon sens, le sens ordinaire plutôt. C'est ce qui s'était passé pour le jeune Tosan quand il entendit la lecture de ce passage de la Nyashinyo. Elle se toucha le visage. Il dit, mais j'ai un nez, des yeux, une bouche. Pourquoi est-il dit que cela n'existe pas? Et son maître ne put lui répondre. Il l'envoya rencontrer un maître zen, tout en prédisant qu'il deviendrait lui-même un grand maître dans le futur. Car il avait cette capacité de questionnement, de remise en question des apparences et de l'enseignement. Il voulait comprendre au fond. Au fond, lorsque la Nyashinyo dit « d'un coup il n'y a pas ceci, cela », ça ne veut pas dire que ceci, cela, les phénomènes n'existent pas. Et que leur mode d'existence est totalement impermanent, insaisissable, sans substance. Donc, il n'y a pas telle et telle chose de manière permanente, substantielle. Mais il y a des phénomènes qui vont et viennent, apparaissent et disparaissent sans cesse. La Nyashinyo n'en nie pas l'existence. Il nous en montre la véritable nature. Et ce n'est pas simplement pour faire une affirmation métaphysique sur la nature de la réalité, mais pour nous guérir de notre tendance à nous attacher à tous les phénomènes. Soit que nous les aimions trop et que nous devenions avides, voulions nous en emparer, soit au contraire qu'on les déteste, qu'on veut les détruire, les éliminer, au moins les éviter. Autrement dit, la vacuité enseignée par la Nyashinyo n'est pas seulement une affirmation sur la véritable nature des phénomènes, qui est exacte de toute façon, mais c'est surtout un remède à l'attachement. Un enseignement pour nous aider à nous harmoniser avec l'ultime réalité, en ne voyant pas seulement les apparences trompeuses, car perçues de manière conditionnée. Nous ne percevons jamais la réalité elle-même, des phénomènes. Ce que nous percevons, c'est une représentation que nous en faisons dans notre cerveau. Une image. Ainsi, les différents êtres vivants ont des sensibilités différentes et donc chacun a une représentation du monde différente. Les animaux ne perçoivent pas les sons, les couleurs de la même manière que les hommes. Leur perception du monde est différente. Certains voient très bien la nuit parce qu'ils sont sensibles aux infrarouges. Nous ne voyons rien quand il fait noir. Donc la réalité que nous croyons saisir n'est que notre représentation de la réalité. Nous représentons les choses à notre manière, en fonction de nos organes des sens et en plus en fonction de de notre karma, de notre histoire, de nos valeurs. Il est normal qu'il en soit ainsi. Ce n'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais si on s'en rencontre, ça permet de relativiser nos représentations et de ne pas devenir fanatique. D'être capable de relativiser et donc de concevoir que d'autres êtres, d'autres personnes perçoivent la réalité différemment. Et donc attachent des valeurs différentes aux phénomènes que nous vivons ensemble. Donc cette méditation d'Anya Shingyo est un bon remède contre tous les points de vue exclusifs, sectaires, dogmatiques. Et une invitation à la plus large tolérance. Ça ne veut pas dire qu'il faille tomber dans un relativisme généralisé. Et contre ce risque de relativisme généralisé, l'enseignement du Bouddha est de nous faire voir la conséquence de notre manière de nous représenter les choses. Et suivant notre manière de voir, cela induit chez nous des comportements qui peuvent être soit utiles, soit nuisibles, apporter du soulagement, du réconfort, du bien-être, ou au contraire, créer de la souffrance. Pour les autres ou pour nous-mêmes. Et c'est là que la compassion, la sagesse du cœur, vient tempérer le risque de relativisme généralisé, qui pourrait être produit par la perception de la vacuité ultime de tous les phénomènes. En fait, tout cet enseignement de la Prajnaparamita est donné par le bodhisattva de la compassion. Ce n'est pas par un attachement dogmatique à une notion de vacuité que Dokanjizai enseigne à Charishi l'ultime vacuité des phénomènes, mais par compassion, pour permettre la grande libération de tous les attachements, de toutes les causes de souffrance. Quand ceci se produit, il n'y a plus d'attachement à son propre ego, et donc plus de possibilité de commettre le mal, de faire souffrir les autres. Et donc le danger du relativisme généralisé est écarté par la transformation intérieure accomplie par la perception de la vacuité de notre propre ego. Qui va de pair avec la réalisation de notre totale unité et donc solidarité avec tous les êtres vivants.